CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, c'est déjà la 107e émission de Radio VCE depuis maintenant bientôt 2 ans. Nous sommes très heureux de vous retrouver chaque semaine. Autour de la table, vous me retrouvez Jonathan Bord, comme ça peut arriver ponctuellement, pour remplacer Odé Beauté, Jonathan de Nuit. Mais je ne suis pas seul. Monique, de quoi vas-tu me parler cette semaine?
Alors, je vais d'abord vous donner une petite information sur une manifestation pour la protection de la forêt dans quelques instants. Puis nous allons parler du retour du plastique dans les cantines.
C'est fantastique. Clément, on va ensuite parler de cuisine comme souvent.
Oui, cette semaine en latin c'est beta vulgaris et pourtant c'est ni bête ni vulgaire, c'est la betterave.
C'est la betterave, très bien. On retrouve ensuite Jean Barbard pour sa chronique.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'utilisation de notre argent et à la possible apparition d'un livret d'épargne militaire.
Fichtre, et on finira par la rubrique culture de Alain.
Bonjour à tous, oui après le Zola écrivain, le Zola de J'accuse, eh bien on va porter un autre regard sur Émile Zola.
Eh bien c'est parfait, Radio VCE, la 107e, c'est parti.
D'abord une petite information sur un grand rassemblement le samedi 29 mars 2025 à Versailles sur la place d'Armes à 14h30 pour la préservation des bois, forêts domaniales et privées en Île-de-France. Alors après tous les refus de l'ONF de diminuer les coupes et les dégâts qui en résultent, les associations qui appellent sont très contentes d'un nombre important d'associations qui manifestent leur désaccord contre les traitements que subissent les forêts d'Île-de-France. On a pu voir, disent-ils, que les réunions de concertation de l'ONF présentent une vision d'exploitant sans prendre suffisamment en compte les demandes de réduction des coupes qui sont une des demandes principales des associations en question depuis plusieurs années pour les forêts de Fausse-Repos et de Meudon. Cette manifestation, elle est donc organisée par des fédérations d'Île-de-France, Fédération de l'Appel des Forêts, Collectif Sauvegarde des Forêts, le JAD, le GNSA, l'Association de la Forêt des Quatre Piliers et Chaville Écologiste et Chaville Environnement y appellent.
Et oui, le sujet est hélas pas neuf, mais on le suit beaucoup à Radio VCE. Merci beaucoup Monique pour ce rappel.
Et maintenant, on va
sur
parler
l'actualité moins locale.
Voilà, moins locale, mais extrêmement inquiétante quand même. Le retour des plastiques dans les cantines. Le 11 mars dernier, le gouvernement a annulé l'interdiction de l'usage des couverts et de la vaisselle en plastique dans les cantines scolaires. C'est un retour en arrière qui stupéfie les associations de défense de l'environnement, les experts en santé publique, les enseignants et les parents d'élèves et de nombreux élus.
Est-ce que tu peux rappeler quelle est finalement la loi sur cette question-là ?
Oui, c'est le 30 octobre 2018 que le Parlement a adopté la loi Egalim, qui s'appelle la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Et cette loi a un article qui s'appelle l'article 28 qui dispose qu'à partir du 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de services en matière plastique dans les services de restauration scolaire, universitaire et dans les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Une autre loi de 2020 applique la même interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité et les PMI. Mais la définition de ces ustensiles interdits a été faite par des décisions d'ordre réglementaire, c'est-à-dire les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées qui sont utilisées pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts. Et ce qui est d'ordre réglementaire peut être modifié par un simple décret.
Bah oui.
Ce que le gouvernement propose donc, c'est de supprimer la fin de sa phrase, y compris la vaisselle et les couverts.
D'accord, tout simplement.
Tout simplement.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement ?
Oh, très simplement. Par pression des lobbies du plastique et des pétroliers, évidemment hostiles à ces dispositions qui ont utilisé une faille dans l'écriture de la loi. Elle parle de contenant. Et le syndicat des professionnels de la plasturgie, qui s'appelle Plastalliance, prétend que couverts, assiettes et gobelets ne sont pas des contenants. Et le gouvernement anticipe que le syndicat va attaquer la loi tout entière. Sauf que le gouvernement aurait pu porter ou soutenir un texte au Parlement pour sécuriser juridiquement l'article 28. Il ne l'a pas fait, préférant céder au lobby du plastique. C'est inacceptable quand on sait les dégâts de l'utilisation des plastiques sur la santé, décomposés en microparticules et sur l'environnement.
Oui, c'est un peu fou. Mais finalement, qu'est-ce que disent les scientifiques sur le problème de santé qui sont liés au plastique ?
Les études scientifiques prouvent que l'on peut être exposé au plastique au simple contact avec les contenants, même quand ceux-ci n'ont pas été réchauffés. Ces particules de plastique, elles contiennent des perturbateurs endocriniens. Elles modifient notre fonctionnement hormonal. Les molécules contenues dans le plastique sont intégrées en s'attachant notamment au corps gras. Et parmi les effets des perturbateurs endocriniens, il y a la baisse de la fertilité, le diabète ou encore des pubertés très précoces. Au-delà des risques pour les enfants, d'autres études sur le cerveau montrent par exemple que les cerveaux des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer contiennent jusqu'à 10 fois plus de ces microparticules que les autres personnes. Les déchets plastiques envahissent notre environnement. Par le biais de la chaîne alimentaire, les microparticules finissent par arriver dans nos assiettes. Parce que 9% seulement des déchets plastiques sont au niveau mondial recyclés chaque année. 8 millions de tonnes de plastique finissent ainsi dans les océans après écoulement dans les cours d'eau et 76% des sols français présentent une contamination par des microplastiques. Cette question des plastiques est une véritable question de santé publique et d'écologie. Et en plus de ce revirement sur la vaisselle en plastique, il faut rappeler les attaques contre l'Agence de protection de la biodiversité, les coupes importantes dans le budget de la transition écologique, une baisse de 2,1 milliards d'euros entre 2024 et 2025 qui touche les aides à l'achat des véhicules électriques qui sont en forte diminution, les subventions pour MaPrimeRénov' aux particuliers pour la rénovation des bâtiments, la baisse du fonds vert pour les aides aux collectivités pour faire face au réchauffement climatique. Nous sommes bien loin d'une politique à la hauteur des urgences environnementales.
Ça, c'est certain, et c'est quand même un peu fou de se dire qu'en 2025, il existe encore un lobby du plastique. D'ailleurs, ça me rappelle que c'est aussi ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump qui vient de revenir sur la décision de supprimer progressivement les ustensiles en plastique dans les administrations. Alors là-bas, le débat se porte essentiellement sur les pailles en plastique, et quelque chose d'assez ridicule, mais ça illustre bien la puissance des lobbies ici comme ailleurs. Merci Monique. On passe tout de suite à la rubrique à table avec Clément.
À table avec Clément Chassin.
Bonjour Clément.
Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la betterave. Voilà, c'est un légume classique et je me rends souvent compte qu'il est quand même mal connu et pas assez utilisé. Voilà, alors la betterave, donc quand ça pousse, ça fait des jolies feuilles, comme les bêtes.
Ah. Voilà.
D'ailleurs, c'est de la même famille que les bêtes. Mais on mange surtout la racine, comme le céleri rave, le chou rave, d'où le nom.
Betterave.
Tout voilà. Simplement.
Voilà, donc. Tout compris.
Je disais qu'on mange surtout la racine. Et là, il y a mon petit côté, il n'y a pas de petites économies. En fait, on peut tout utiliser dans la betterave, ça c'est chouette. Surtout si c'est bio, parce que sinon, il y a des produits chimiques dessus et c'est moins bien.
Oui.
Voilà, donc, comme je disais, c'est de la famille des blettes. Donc, on peut manger les feuilles. Alors, c'est moins fin que les blettes, effectivement. Mais avec une pomme de terre, une petite carotte, on a une petite soupe.
Ah.
Bah oui,
d'accord.
Faut pas gâcher. Voilà. Les épluchures, bon alors ça se mange pas, quand même. Mais on peut faire des teintures végétales. Voilà, si vous avez un vieux tote bag ou un torchon dont vous savez pas quoi faire, c'est l'occasion. Ou on peut jouer à faire des tampons avec les enfants.
Eh oui, parce que c'est très très coloré.
C'est très coloré, c'est
ça
très
attache,
colorant.
Ça
c'est
attache.
Très, voilà, ça tâche beaucoup, mais donc avec les enfants et un tablier.
Oui, voilà.
Voilà, et donc les feuilles, les épluchures et la racine. Alors, pourquoi pas cru ? Souvent on la mange cuite, mais on peut la manger crue aussi. Donc râpée dans une salade ou en lamelles, par exemple, pour tartiner à l'apéro. Ça change un petit peu.
Hein, pourquoi pas.
Et voilà. Et du coup, ça peut être une occasion de découvrir qu'il y a différentes variétés betteraves. Donc, on connaît tous la betterave rouge, mais il y a aussi des betteraves jaunes. Il y a des betteraves zébrées, ouais. Roses et blanches.
Très jolies.
Elles sont super jolies. Ouais, et ça, belle. À l'apéro, c'est génial. Quoi. Ouais. Ça, tout de suite, c'est sympa. Ou on peut la manger cuite, évidemment. Donc ça, on la trouve souvent déjà cuite.
Oui. Alors,
sinon, ça peut se cuire.
C'est long. Hein.
À l'eau, à la vapeur, au four.
C'est long.
Mais comme tu dis, c'est très long. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple de la manger déjà cuite, enfin de la trouver déjà cuite, parce qu'effectivement, sinon, ça prend beaucoup de temps.
Et oui, ça, c'est le problème. De...
Mais
enfin, c'est ce qu'on trouve
hein,
chez les grands distributeurs, en fait.
Donc, voilà. Et donc, alors, souvent, la betterave cuite, on la mange froide, en entrée ou en salade, mais on peut tout à fait l'incorporer dans des plats. Dans des soupes, des purées, un peu tout. Un des plats les plus connus avec la betterave, c'est le borsch, la soupe des pays de l'Est, là.
Mm-hmm.
Et oui, voilà. Et donc, effectivement, on peut la mettre dans des purées, dans des soupes. Et souvent, ça va vous donner une belle couleur rouge, rose. Voilà,
oui,
ça donne des dégradés assez étonnants, des fois. Voilà. Donc là, par exemple, j'avais ramené un houmous à la betterave et au fromage de chèvre.
Ouh là là, ouais, alors c'est très joli.
Et ça fait un joli rose, qui est une couleur que finalement on mange assez peu.
C'est sûr.
L'occasion, voilà.
Donc il y a juste du fromage de chèvre avec la betterave.
Il y a betterave, fromage de chèvre, pois chiche, que j'ai mis un peu d'huile.
Oui, pour poivre, la consistance. Ouais.
Je crois que j'ai eu la main un peu lourde sur l'ail, mais, mais c'est très bon. C'est bon pour la santé. Voilà. Pour finir, bah, je vais vous donner ma recette préférée, parce que quand même,
ouais.
Voilà. C'est la terrine de betterave au fromage de chèvre. Ça ne paye pas de mine, mais c'est assez sympa. Et c'est pas très compliqué. Donc, en fait, vous prenez une betterave cuite, vous la coupez en tranches de 5 mm, quoi, voilà. Vous chemisez un plat, donc vous mettez du film alimentaire au fond du plat, une couche de betterave, une couche de fromage du chèvre frais,
ouais.
Sel, poivre, un filet d'huile. Alors, si vous avez huile de noix ou huile de sésame, c'est encore mieux. Et on recommence. Betterave, chèvre, sel, poivre, un filet d'huile, betterave, chèvre, sel, poivre. Et on termine avec une couche de betterave. On referme le film alimentaire, on met un pois dessus, on met au frigo pendant 12 heures.
Et on a
une terrine de betterave.
Super.
Voilà, et alors ça, à l'apéro,
ça
passe
marche,
nickel. Et en plus, c'est une recette qui est assez sympa à faire, notamment avec les enfants, parce que du coup, il faut étaler les betteraves, il faut étaler le chef dessus, il faut patouiller, on en a plein les doigts.
Ah bah oui.
C'est hyper rigolo. Voilà.
Merveilleux.
Bah, super.
Je pense que nos auditeurs ont peut-être leur papille déjà noyée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Clément. Tout de suite, la chronique de Jean Barbard.
Bonjour à tous. Bon, c'est difficile de passer à côté. La Russie pousse aux frontières de l'Europe et Donald Trump, président fraîchement revenu au pouvoir, lâche la coalition en plein vol. Alors, je ne sais pas vous, mais Claude Malhuret a éteint le débat au Sénat. Son discours a fait plusieurs dizaines de millions de vues partout dans le monde. Mais en toile de fond, on en dit quoi nous ? Parce que si nos élus font les fines bouches en criant « Non, on ne veut pas manger de Poutine », ça fait des années qu'on court après l'argent pour les écoles, le logement et les hôpitaux. Et là, comme par magie, l'argent coule à flot. Après les 300 milliards pour l'IA, voilà 800 milliards de plus pour l'armée. Du cash à foison. On repensera à Jean-Louis Borloo qui, au début des années 2010, allait de pupitre en pupitre, un verre de rouge à la main, pour demander 50 milliards pour électrifier toute l'Afrique. Les caisses étaient vides. Alors si depuis ça serait fait... Non, les Français, on se fait chasser du Mali, du Niger et bientôt du Sénégal, au profit de qui ? Eh ben des Russes. Ces mêmes Russes qui sont là, aux portes de l'Europe. N'y a-t-il pas comme un petit problème de stratégie ? Alors bien entendu, le bulletin électoral peut agir, mais il y a surtout là où on peut faire beaucoup. Par où, me direz-vous ? Eh bien, roulement de tambour, par l'argent. Car si l'idée d'un livret d'épargne militaire est à l'étude, il est important de noter qu'il est possible d'aller vers une épargne utile. Oui, oui, vous avez bien entendu, il est bien possible d'utiliser son argent pour autre chose que pour d'armer des drones ou financer des jeux vidéo grandeur nature pour dirigeants en mal de sensations fortes. J'ai identifié plusieurs pistes pour sauver ce qui reste de notre conscience citoyenne, accessible immédiatement. En 1, on a le livret de développement durable et solidaire, le LDDS, un livret sûr, garanti par l'État et qui, incroyable mais vrai, sert réellement quelque chose comme financer des panneaux solaires ou aider les PME engagées dans la transition écologique. En 2, on a les fonds ISR, les investissements socialement responsables. Oubliez 2 secondes les placements douteux, ici notre argent encourage des entreprises qui se préoccupent efficacement de l'environnement, d'équité sociale ou de gouvernance transparente. Et enfin, en 3, le financement participatif à impact. Donc on choisit directement un projet local qui nous parle, comme installer des panneaux photovoltaïques à La Rochelle, plutôt que d'attendre qu'un ministre se réveille après une sieste de 10 ans. Pour finir, il y a une banque française, Gringotts, qui avec plus d'1 milliard d'euros de transactions et plus de 100 millions d'euros en gestion, investit sur des projets à impact comme Vestac, Talanos ou Veralia, des projets locaux à impact. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site et à vous renseigner sur la banque de Maude Caillot, Gringotts, ça s'écrit G-R-E-E-N, plus loin G-O-T, et dites-nous en commentaire ce que vous pouvez en penser. Enfin, pour finir, en attendant le livret d'épargne militaire, on espère surtout qu'ils nous épargneront la guerre.
Oui, ça c'est certain. Et là, le sujet de la finance et l'éthique, et de toute façon, on aura du mal à l'éteindre définitivement. Merci beaucoup Jean Barbard. On passe tout de suite à la rubrique bande-annonce par Alain, jingle.
Avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la maison qu'occupait Émile Zola à Médan, dans les Yvelines. Pour chacun de nous, Émile Zola est d'abord l'auteur de nombreux romans. Il est aussi le journaliste qui a écrit le fameux J'accuse durant l'affaire Dreyfus. Pour quelques autres, rares encore, Zola est également un grand photographe. C'est le thème de l'exposition Zola photographe à l'espace Richaud de Versailles, 78 boulevard de la Reine, qui s'achèvera le 20 avril, donc ne tardez pas. Zola naît en même temps que la photographie. Il ne s'y intéresse pas particulièrement dans les premiers tiers de sa vie, même s'il fréquente les studios de photographie parisiens et évoque la photo dans ses romans. C'est en 1888, alors âgé de 48 ans, que Zola se met à pratiquer la photo avec ses amis en vacances et semble se former tout seul à cet art. À cette époque, il fallait avoir des compétences de chimiste, raison pour laquelle il fait installer un laboratoire dans chacune de ses résidences. Alors que dominent dans ses romans les sujets sociaux, il photographie principalement son monde privé, ses proches, ceux qu'il aime. À partir de 1894, juste après avoir terminé les Rougon-Macquart, il commence à consacrer beaucoup de temps à sa nouvelle passion. L'un de ses thèmes favoris est la maison de campagne de Médan, dont je vous ai déjà parlé. Là, il photographie ses proches, ses enfants et des animaux, et particulièrement les chiens. En tant que critique d'art, il célébrait le mouvement impressionniste, alors naissant. C'est grâce à Cézanne, son ami d'enfance, qu'il fait la connaissance des impressionnistes à son arrivée à Paris. Il est frappant de voir certaines ressemblances formelles avec les tableaux qu'il a aimés et certaines de ses photographies. Il suffit également de regarder certains tableaux de Gustave Caillebotte et de les comparer avec certaines de ses photos de rue saisies par lui pour mesurer combien l'un et l'autre sont proches par le regard qu'ils y portent. Le 18 juillet 1898, Zola est définitivement condamné pour son article paru dans le journal L'Aurore, J'accuse, à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Pour éviter la prison, il part en exil le jour même en Angleterre et y reste 1 an. C'est une année difficile pour lui. Il est seul et ne parle pas anglais. Mais il va y nourrir sa passion pour la photo en choisissant des thèmes que les courses hippiques, la charrette du laitier et des scènes de rue. Il conserve cet attrait pour le reportage à son retour en France et plus spécialement à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Ses photographies, qui permettent de découvrir un Paris transformé par l'événement, sont précieuses par leur aspect documentaire. Certaines photos sont vraiment audacieuses dans leur perspective et leur cadrage, notamment des vues plongeantes depuis la Tour Eiffel, ainsi qu'une photo nocturne de la Tour, ce qui était très rare pour l'époque. Zola meurt à Paris le 29 novembre 1902. Je vous rappelle que l'exposition, à ne pas manquer, c'est à l'espace Richaud, 78 boulevard de la République, à Versailles, jusqu'au 20 avril.
Merci Alain pour cet aspect très méconnu de Zola. Finalement, oui, c'est vrai qu'il y a une cohérence en fait sur sa démarche littéraire de représenter la réalité, le naturalisme et de rejoindre les pointes impressionnistes à la photographie.
Les photos sont vraiment superbes.
Hein. D'accord, très bien. Je suis en train de voir sur le site. En plus, c'est pas cher. C'est à 7 euros en tarif plein. Entrée libre pour les moins de 26 ans. Voilà une bonne idée de sortie prochaine. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. À bientôt.